100% entrepreneur.
Confidence d'un parcours.
Ils vous disent tout sur We Do Biz.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane Vincent sur We Do Biz dans l'émission Le Jukebox de ma vie, où j'ai la chance, le privilège, bref, l'honneur de recevoir aujourd'hui Sébastien Rouchon.
Bonjour Stéphane.
Alors Sébastien, vous êtes le patron d'une entreprise qui s'appelle Rouchon Paris. Alors qu'est-ce qu'on y fait dans cette belle maison ?
Alors Rouchon Paris, c'est d'abord une entreprise familiale qui a été fondée par mon grand-père, Jacques Rouchon.
Une saga.
Une saga, exactement, qui a été créée donc, à la fin des années 40, quand il a démarré son activité de photographe. Et c'est une entreprise qui a évolué à la mort de mon grand-père et qui est devenue progressivement une entreprise de prestation de services basée autour d'une activité de location de studio photo pour les professionnels de la mode et du luxe en règle générale. Donc ça va des magazines de mode, des catalogues et de la publicité pour tout l'univers de la mode, du luxe, des cosmétiques.
Tout ce qu'on voit dans les magazines et tout ce qu'on voit souvent en 4x3, ça a été shooté chez vous ?
Pas que chez nous malheureusement, mais chez nous ou chez des confrères à Paris, à New York, à Londres, à Milan, enfin un peu partout dans le monde.
Donc vous êtes quand même très proche du monde de la mode, du monde des cosmétiques.
Alors nous sommes les artisans, les techniciens qui sont derrière toutes ces photos.
C'est-à-dire que vous n'êtes pas sur la prise de vue, mais vous faites tout ce qu'il y a autour, un peu comme un studio d'enregistrement propose à des artistes de venir enregistrer et de venir jouer. Vous, les gens viennent, se font prendre en photo, toute l'équipe arrive. Par contre, vous fournissez tout l'environnement qui va autour.
Voilà, nous, on fait en sorte que le client et son équipe aient à sa disposition un studio, du décor si nécessaire, de la lumière, les appareils photo, l'équipement informatique, des techniciens si besoin.
Et... Ça s'arrête jusqu'où, le service ?
Ça s'arrête nulle part en fait. Nous, on peut aller jusqu'où il faut en termes de moyens de production. S'il faut aller trouver une équipe de maquillage, on peut le faire aussi parce qu'on a développé un département.
Si j'ai besoin d'une Harley Davidson blanche, vous me la trouvez ? Vous proposez aussi ce type de choses ou pas ?
On peut, ça reste des choses très exceptionnelles, mais on comme dit ma directrice commerciale, on dit jamais non.
Par principe.
Par principe.
vous me disiez aussi que vous aviez un service d'hôtellerie.
Alors en fait, nous, on a des équipes donc, qui viennent du monde entier. Et le midi, ils ne peuvent pas sortir, aller dans un restaurant quand ils sont 40 et qu'ils vont manger à 15
heures. Il y a le maquillage, il y a des choses qui ont déjà été fabriquées, donc il faut continuer. Quoi.
Donc on a très rapidement monté un service de restauration maison, donc avec une équipe de cuisine qui prépare des repas frais tous les jours pour nos équipes. Et aussi tout un tas de petits services pour répondre un peu comme un hôtel le ferait avec son room service aux besoins et aux envies de nos clients comme un service hôtelier. Quoi.
Alors Rouchon Paris, c'est combien de collaborateurs ?
Alors aujourd'hui, c'est une trentaine de collaborateurs permanents et une trentaine d'intermittents. Qui sont nos assistants de plateau et qui sont embauchés à la journée en fonction des besoins et du taux d'occupation de la maison.
Alors on en sait un petit peu plus sur votre activité, mais moi je vais revenir à la première question de l'émission puisque je vais vous parler de musique. Donnez-moi une musique pour me dire d'où vous venez, et là vous avez choisi Scott McKenzie avec la chanson San Francisco. Donc vous êtes né aux États-Unis ?
Pas du tout. Je ne suis pas du tout né aux États-Unis. Non, j'ai choisi cette chanson parce que je viens d'une famille, on va dire, pour caricaturer un petit peu, hein, de hippies du 16e arrondissement.
Oui, ce qui est un concept. Aujourd'hui, on appelle ça bobo.
Ouais, c'est ça.
Mais le hippie du 16e, c'était...
Et voilà, donc issu de bonne famille, avec une bonne éducation, libertaire. Moi je suis né à Aix-en-Provence, mes parents avaient émigré dans les Bouches-du-Rhône pour monter une crêperie bio à l'époque. J'ai grandi et je suis né dans cette atmosphère un peu...
Flower power,
communautaire. Alors hippie, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas vraiment dans cet esprit un peu libertaire.
Alors on va écouter Scott McKenzie et on se retrouve tout de suite après.
If you're going to San Francisco.
Quel voyage à San Francisco, c'est Scott McKenzie, c'est toujours cette guitare, cette présence. C'était une vraie vie de beatnik chez vos parents. C'est-à-dire que pourquoi quand on est à Paris, on se dit on part et on monte une crêperie bio?
Je crois que c'est l'aventure, c'était l'époque, c'était la recherche de sensations et d'expériences nouvelles, de créativité. Enfin, voilà, après, c'était cette époque. Hein,
qui était... Alors, vous naissez où?
Moi, je nais à Aix-en-Provence. On habitait dans la petite ville d'Aiguille. Mais j'y suis resté 12 ou 15 mois. La crêperie a été un échec flagrant. Et rapidement, tout le monde a été rapatrié à Paris. Et mon père a repris le chemin de la photographie en travaillant avec son père, comme assistant d'abord, puis comme photographe. Et puis rapidement, mon grand-père est tombé malade, donc il a fallu assurer...
Ouais, faire tourner la boîte.
Voilà, faire tourner la boutique.
Vous, quand vous étiez petit, donc vous étiez... à la fois très proche de cette activité qui était... vous étiez dans les pattes, entre guillemets, je pense, de votre père et de votre grand-père dans cette activité photographique. Ça a toujours été un rêve, cette photographie? Au final, c'était même plus un rêve parce que c'était tellement présent?
C'était normal, en fait. J'ai l'habitude de dire que le studio c'est la seule maison que j'ai eue toute ma vie, en fait, parce que je n'ai pas arrêté de déménager... tous les 2-3 ans en moyenne avec mes parents. Et le seul endroit qui a jamais bougé, c'est ce studio. Donc oui, je courais dans les studios, dans les couloirs. J'ai été l'éternel stagiaire pendant longtemps.
Et si on reprend, est-ce que le regard que vous avez sur votre grand-père et sur votre père est un regard sur des entrepreneurs ou avant tout sur des gens qui exerçaient un métier artistique?
Alors clairement pas des entrepreneurs. Ça, c'est une évidence.
Et au final, ça a quand même duré 2 générations avant vous.
Mais oui, mais ça, après, c'est des choix qui sont faits. Si on fait les bons choix au bon moment, même si on n'est pas un entrepreneur né, si on s'entoure bien et si on a les bonnes intuitions, ça peut donner des grandes choses. Mais effectivement, que ce soit mon grand-père qui s'est largement reposé sur ma grand-mère pour la partie gestion des affaires.
Conjoint collaborateur, je crois qu'on dit souvent pour toutes ces personnes qui font énormément de boulot le soir.
Non, conjoint collaborateur exploité, c'est ça le terme adéquat. Et mon père, qui était lui-même photographe, qui avait sa carrière et qui ne pouvait pas être en train de faire des photos parce qu'il partait beaucoup en voyage pour les catalogues notamment. Et quand il n'était pas là, il ne pouvait pas faire tourner la boîte et qui était en train de se structurer sur un marché qui évoluait, puisque à cette époque, il y a énormément de nouveaux photographes qui arrivaient sur le marché. Ils n'avaient pas de lieu où travailler, il leur fallait des studios. Et c'est comme ça que, petit à petit, les studios dans lesquels mon grand-père et mon père et mon oncle travaillaient ont commencé à être loués. Et puis, on a embauché un premier régisseur et puis une bookeuse. Et puis, c'est comme ça que l'activité a démarré au milieu des années 80.
D'accord. Donc avant, on était vraiment sur un périmètre très petit. À partir des années 80, ça grossit. Vous, vous vouliez faire quoi quand vous étiez petit au milieu de tout ça ? Obligatoirement être dans la photo ou obligatoirement surtout ne pas être dans la photo ?
Alors moi, j'ai très vite su que je ne voulais pas être photographe pour avoir vu des générations et des générations d'assistants photographes passer chez nous et voir que c'était devenu très difficile de vivre de la photographie. En revanche, pour moi, cette entreprise, c'est toujours été un objectif. J'ai jamais su pourquoi, mais j'ai toujours eu envie de le reprendre. Et même quand j'étais môme, à 12, 13 ans, les collaborateurs de l'entreprise m'appelaient futur patron en rigolant, quoi.
Donc vous, en fait, votre objectif, c'était Rouchon Paris, c'était pas la photographie chez Rouchon.
Voilà.
D'accord. Alors moi, je vous ai posé la question du premier disque que vous avez acheté, puisque là, on a parlé de beaucoup d'images, mais je vous ai posé la question de ce premier disque et vous m'avez répondu avec un album de MC Solar qui s'appelle « Qui sème le vent récolte le tempo ». Pourquoi vous avez choisi à l'époque ce disque de MC ?
Alors, c'est pas le premier disque que j'ai acheté, mais en tout cas, c'est le premier disque que j'ai acheté et qui sortait complètement de l'univers musical de mon père, qui est un énorme passionné fondu de musique.
Mais et on restait sur 60-70, du coup.
Oui, alors c'était très large. Hein, nous, à la maison, j'ai toujours eu une culture musicale très éclectique, mais le rap n'en faisait clairement pas partie. Donc c'était un peu un acte d'indépendance,
de rébellion. C'était un peu votre crêperie aixoise à vous.
Voilà, chacun sa manière de se rebeller. Moi j'ai pas vraiment fait de crise d'adolescence. Voilà, peut-être que MC Solar a été le début de ma crise d'adolescence.
On écoute MC.
Un break de batterie coule sur la FM. Il se mêle à mon sang et fait de moi un phénomène étrange. La cadence à fleur de peau, 5, 4, 3, 2, 1, tempo. Le vent se lève pour dire que mon karma suit la cadence qui me mène au nirvana. Ensorcelé, le pacte est scellé. La beauté du corps sans effort, c'est de danser. On me traite de traître quand je traite de la défaite du silence. Le silence est d'or, mais je choisis la cadence. Une vague, un cyclone, que dit la météo? Qui sème le vent récolte le tempo. Qui sème le vent récolte le tempo. Chaque mot, chaque phrase, dit avec emphase. Fais de Claude MC le commando de la phrase. Le tempo est roi dans l'arène musicale. Les rênes sont à moi, torero, lexical, matador. Prêt pour la mise à mort, après le corps à corps. Alors fais un effort, remue ton corps plus fort. On est d'accord, pas de temps mort, mais sache pourquoi. Parce que le tempo est roi, le paramètre est paranormal. Que dire, que dalle, Claude MC s'installe. Ancré dans les annales, exemple. Le rock, la salsa, le twist, le reggae. Petit à petit, sans faire de bruit, se sont imposés. Car qui sème le vent, récolte le tempo. le tempo. Au nom du père, du fils et de Claude MC, Solar vous invite dans les rap parties. Car je suis un MC d'attaque, sans dire qu'authentique, pas en toque. Prêt à frapper tes levées pour le mouvement hip-hop. Coûte que coûte, j'écoute et je goûte cette solution aqueuse qui les rend heureuses. C'est du rap liquide, fluide, créé par un druide, un peu speed qui file comme un bolide. Pour ne pas faire un beat, du rap d'attaque qui frappe et pas te matraque et pas t'attraque. Plus de temps tu claques, lui, MC des carpates, un MC. Vrai qu'authentique sans aucune panique. Prêt à frapper tes levées, alors mon ami, écoute bien cette musique. Car qui sème le vent récolte le tempo. Le pédagogue au bon nom de code sur la boucle d'MC te propose d'écouter ceci qu'on appelle les voyelles des consonnes, les consonnes. La musique est bonne, je prends souvent le temps d'aller de l'avant. Je ne perds pas un instant, car c'est de l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur, fait-il le malheur. L'essentiel est d'être à la hauteur. Pas de morale sur ces quelques mots. Qui sème le vent, récolte le tempo. Sème le vent, récolte le tempo. Le tempo. Le tempo. Le tempo. Le tempo.
De retour après ce morceau d'MC Solar, donc un break de batterie cool sur la FM. C'était une époque dans laquelle vous étiez en train de vous chercher. Vous aviez acheté une casquette, vous l'aviez mis de côté, non ?
Bah ça, la casquette, je l'ai toujours portée puisque je... puisque j'ai joué au baseball pendant très longtemps.
Comment on arrive à jouer au baseball quand on est dans la région parisienne ? Parce que c'est quand même pas évident.
Non, c'est pas évident, mais une marraine américaine, un séjour au Canada en échange à l'école.
Un peu de frime ?
Ouais, non. Peut-être un petit peu, sans doute. Il y a toujours un peu de frime à l'adolescence.
Et donc, vous vous lancez dans le basketball, dans le baseball.
C'est classique comme erreur.
Pardon, c'est bien, je suis très classique.
Il suffit que vous me demandiez si j'étais lanceur ou batteur, et là, on est bon.
Je vais éviter, je vais juste reposer la question. Ça se composait de combien de personnes, une équipe de baseball ?
Sur le terrain,
oui.
Il va y avoir 9 joueurs. Et alors pour les puristes, on va dire peut-être 10 avec le batteur désigné qui peut remplacer le lanceur à la frappe.
Et alors, on peut jouer où ?
En région parisienne, il y a pas mal de clubs un peu partout. Moi, j'ai commencé au club de Ville d'Avray. On s'appelait les Black Angels.
Yeah.
Voilà, j'avais 14 ans, je rentrais du Canada et on était toute une tripotée de copains d'école à s'être inscrits dans ce club je crois que je dois être le seul à avoir insisté aussi longtemps.
Et vous avez joué jusqu'à... vous jouez encore peut-être ?
Non, je crois que j'ai, c'était plus possible.
Je ne sais pas.
Physiquement, physiquement, je ne tenais plus le coup.
Et vous avez joué à un niveau, juste pour le fun ou à un niveau, je sais pas, de compétition ?
Bah, progressivement, je suis monté dans les nombreuses divisions du championnat en France et j'ai atterri en première division.
Ah, quand même !
Et j'ai été champion de France en 2000 avec le Paris Université Club. On a fait des coupes d'Europe un peu partout à travers l'Europe. Ça a été une expérience qui a été vraiment très, très forte pour moi en temps, puisque c'était 2-3 entraînements par semaine, plus 2 matchs le dimanche.
Deux matchs ?
Oui, parce qu'il faut jouer beaucoup de matchs au baseball. Dans le championnat américain, on joue 162 matchs dans l'année.
Oui, d'accord. Donc,
il faut jouer beaucoup. Et j'ai appris énormément de choses. La valeur du travail, le goût de l'effort, la puissance de l'esprit, de la pensée positive pour améliorer la
concentration.
Performance. J'ai aussi beaucoup appris à faire la fête. Ça, c'était important. Ça m'a permis de prolonger un peu l'adolescence assez tard.
Et alors, en même temps, je pense que vous n'avez pas fait un sport-étude de baseball.
Non, mais j'ai été au bataillon de Joinville, donc j'ai fait mon service militaire en tant que joueur de baseball.
Ce qui est pas mal, quand même.
C'est assez rare.
Vous avez quoi comme arme ? Une batte. Et donc, ma question, c'est qu'est-ce que vous avez fait à l'école ?
À l'école, je suis...
Accessoirement,
mais je me suis débrouillé pour rester à Paris et pour pouvoir continuer à faire ma passion. J'étais à Dauphine, j'ai pris mon temps.
Donc vous avez eu le bac ?
J'ai eu
mon... En fait, vous faisiez partie des bons élèves ou ceux qui passaient ? Parce que c'était pas votre... Mais il fallait que ça passe.
Moi, j'étais un peu facile. Voilà, j'étais un glandeur doué, on va dire. Donc, je passais correctement. J'ai dû avoir une petite mention au bac, mais sans forcer, quoi.
Donc, Dauphine derrière ?
Dauphine derrière, parce qu'on m'avait fait comprendre que, comme j'étais un peu branleur, prépa HEC, ça serait pas pour moi. Et que Dauphine, c'était... voilà,
ça se tentait.
Ça se tentait. Et j'ai été pris, j'étais très content. J'ai passé de très, très bonnes années à Dauphine. J'ai pris mon temps. J'ai fait mes 6 ans pour avoir ma maîtrise et j'ai découvert la vidéo d'ailleurs à Dauphine puisque je faisais partie de Channel 9, la télé étudiante de Dauphine où on a commencé à bidouiller la vidéo entre copains.
Alors on voit que à la fois vous étiez dans un environnement en fait j'ai l'impression que tout est assez en rupture, c'est-à-dire qu'il y a un côté où il y a des choses très claires, très précises et en même temps il y a un côté fun à chaque fois, un côté les parents qui partent, vous qui achetez du MC Solar, d'un seul coup vous lancez dans le baseball. Moi je vous ai justement posé la question, y a-t-il un morceau que vous adorez et que les autres n'imaginent pas être votre style ? Parce qu'au final, est-ce que les gens imaginent être votre style ? Je ne sais pas ce que c'est. Et vous avez, choisi un morceau de Tony Toney, qui s'appelle Slow Wine.
Tout à fait.
Pourquoi vous avez choisi ce morceau-là et pourquoi les gens n'imaginent pas que ce soit votre style ?
Alors déjà, moi, je ne suis pas certain qu'on puisse me coller un style.
C'est ça ma question.
Je ne suis pas gothique, je n'ai pas un style de rappeur. Même si c'est difficile aujourd'hui quand même de donner des étiquettes aux gens. Mais alors, ceux qui me connaissent bien et qui me connaissent depuis longtemps savent que j'ai eu une longue période R&B où j'avais... beaucoup de romantisme en moi et j'ai écouté énormément de Blackstreet, de Joe Dessy, tous ces groupes noirs américains des années 90. Et Tony Toney, je l'ai choisi parce que Raphaël Saadic, c'est quand même un musicien hors pair et qui continue à avoir une carrière assez éclectique et qui est très musicale. Donc voilà, je me suis dit que ce serait une bonne chose d'avoir un peu de R&B dans cette programmation.
On écoute. You know, I remember when we first started this song. All the fellas, Tim, Raphael. For me, I'm Dwayne. And I'm an Aquarius. You see, we were over in Trinidad and Tobago for a while. We met a few friends, had a good time, you know. But while we were there, we experienced something called slow wine. No, it's not just drinking. Pay attention. Let me explain. Show than tell. For you gotta lift up my emotions. But slow plus a four-letter word.
the one thing on my mind.
Ce morceau particulièrement suave. Ouais, c'est votre truc, ça, le côté un peu.
Ah bah moi, j'ai comme je disais
un
tout à
peu drague, parce que là, on est quand même à la limite.
Bah, on est soit dans la drague, soit dans le blues amoureux, quoi. Et moi, j'étais plutôt dans le blues amoureux que dans la drague.
Alors, ça dépend parce qu'on peut être dans les deux. Le problème, c'est de savoir dans quel sens on le fait. Parce qu'on peut être d'abord dans la drague, puis dans le blues.
Voilà, bah, on fait souvent. Moi, j'ai fait beaucoup d'allers-retours.
Donc on continue avec Dauphine, vous étiez donc à Dauphine, et là vous vous dites, j'atterris, qu'est-ce que je vais faire ? Mais et c'était obligé Rouchon ?
Bah,
ou
en fait,
c'était obligé autre chose ?
Pendant toutes mes études, j'avais toujours une arrière-pensée en, à propos de la boîte familiale, quoi. Et c'est vrai que je rentrais à la maison, mes parents étaient séparés à l'époque, et alors c'est, ça peut paraître étrange, mais c'est ma maman qui dirigeait l'entreprise de mon père, alors qu'ils étaient séparés. Enfin bref, et du coup je rentrais à la maison et je confrontais un peu mes nouvelles acquisitions et mes nouveaux savoirs à la réalité de la gestion d'une TPE ou petite PME, en discutant avec ma maman ou avec mon père de temps en temps. Et voilà, donc j'essayais de confronter ces apprentissages à la dure réalité de la TPE. Et je me suis vite rendu compte d'ailleurs qu'on était formé à tout sauf à la gestion d'une petite entreprise quand on fait ce genre d'études.
Peut-on s'y former ?
Et c'est une question que je me pose toujours. Oui, on peut s'y former. J'ai tendance à penser que c'est plus une formation continue une fois qu'on est dedans, parce qu'on ne peut pas se préparer. Et puis,
c'est vraiment ce qu'on appelle du learning by doing, quoi. C'est au pied du mur qu'on voit le mur.
On pourrait y être un peu mieux préparé. Sans doute. Oui. Mais je pense que c'est un apprentissage du quotidien et il faut grandir en même temps qu'on exerce ce métier de dirigeant entrepreneur.
Alors, votre première expérience en entreprise après Dauphine, c'est quoi ?
Alors après Dauphine, je fais un DESS de gestion de PME-PMI en sortant de l'armée. Ça me fait bizarre de dire ça, pour me remettre un peu dans le bain. Je fais un stage dans une start-up e-commerce. On était juste avant la bulle. Donc, je trouve un stage dans une boîte qui vendait du vin sur Internet, qui avait levé des fonds, qui embauchait à tour de bras. Donc, je démarre là-dedans. En faisant du marketing. Concrètement, je faisais de l'acquisition de trafic pour le site e-commerce. Et puis, je suis débauché par des copains qui montent leur start-up dans les télécoms. Et puis, tout se casse la gueule. Et je me retrouve au chômage, comme beaucoup dans mon cas. Et là, du coup, revient un peu l'entreprise familiale.
Why not?
Ben, pourquoi pas, effectivement. Alors du coup, se poser la question, est-ce qu'il faut rentrer par l'exploitation, par le métier, ou est-ce qu'il faut rentrer par le management ? J'ai failli rentrer en tant que régisseur pour apprendre la technique, apprendre le métier, et puis ça ne s'est pas fait.
On va écouter le morceau que vous associez à cette première entreprise. Vous avez Fillet of Soul avec un morceau qui s'appelle Worldwide. On va revenir après justement sur cette orientation. Faut-il être un technicien pour travailler dans une boîte technique ? We'll be right back. Donc vous aviez monté une entreprise de jazz.
Voilà, tout à fait.
D'électro-jazz. Hein,
d'ailleurs, je vais sortir mon saxophone.
cette entreprise que vous aviez créée, votre première entreprise, vous m'avez dit qu'elle s'appelait le Studio Dev.
Et bah oui.
Dev, pas comme l'artiste, hein, comme développement.
Non, ouais, d'ailleurs, je me suis très vite rendu compte que ce choix était très mauvais. Et en fait, ça partait
les gens faisaient « Ah bah Nina, oh, oh non ouais. !»
Non, mais parce que l'entreprise, à l'époque, s'appelait Le Studio. Et moi, je voulais monter ma boîte. Donc après un an et demi de chômage, où j'ai suivi une petite formation par la NPE de gestion de projet multimédia. Et puis, rapidement, chemin faisant, on nous a proposé de créer un site internet catalogue pour le beau-père d'une fille qui était en formation avec moi, qui m'a proposé de le faire. Moi, je n'avais jamais fait de site internet, mais je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas. Je lui ai dit, OK, on le fait. Donc, j'ai acheté PHP MySQL pour les nuls. Et puis, je me suis mis à créer mon premier site internet. Et puis, à un moment, je me suis dit, bon, bah, OK, on va monter une boîte. Donc, je me suis dit, on va monter une boîte de création multimédia, un peu fourre-tout, peut-être.
C'est l'époque du CD-ROM, non ?
C'était l'époque, effectivement, du CD-ROM, du DVD qui arrivait. Et donc, j'ai monté cette boîte où je faisais des sites internet, je faisais de la production vidéo institutionnelle. On a fait, effectivement, des CD, des DVD. Moi, je ne sais pas dire non et j'aime bien dire oui à des trucs que je ne sais pas faire. Ça m'a permis d'apprendre plein de choses, de faire des erreurs. Et notamment dans la gestion d'une petite entreprise, la comptabilité, les déclarations sociales, qui sont des choses qu'on découvre effectivement en faisant. Et c'était finalement, rétrospectivement, une très bonne chose de me faire la main sur ma petite entreprise à moi.
Oui, plutôt que d'arriver et de fracasser le boulot qui avait été fait par une saga, parce qu'il y a toujours cette zone de risque quand on reprend, c'est-à-dire qu'il faut respecter ce qui a été fait avant et puis aussi essayer d'avoir sa patte. Donc quand vous ensuite vous faites quoi vous de cette boîte le Studio Dev vous
bah en 2000,
la revendez, elle explose
En 2007 ma maman décide d'arrêter et de prendre une semi-retraite on va dire et du coup naturellement c'est vers moi qu'on se tourne pour la succession. Donc je reprends les rênes de l'entreprise familiale en 2007, je mets mon entreprise en sommeil doucement, je me débrouille pour que mes clients trouvent des prestataires pour reprendre la suite, et puis je me consacre à 100% à l'entreprise familiale. Et effectivement, oui, il faut reprendre l'existant, et dans une entreprise familiale dont certains collaborateurs m'avaient connu gamin, quoi. Se faire sa place, comprendre comment ça fonctionne, même si je connaissais bien l'entreprise quand même. Et apporter sa patte, ça, c'est quelque chose qui vient petit à petit, en fait.
On va revenir justement sur ce côté. Est-ce qu'une entreprise qui est dans un environnement technique et technologique, avec une technologie qui évolue tous les jours, c'est facile quand justement on n'est pas soi-même un technicien pour pouvoir diriger, la diriger et puis diriger des collaborateurs qui, eux, détiennent le savoir?
Alors, être un technicien, ce n'est pas forcément la compétence la plus importante. Moi, je suis un peu geek, donc la technique, ça me parle.
Mais une lumière, enfin, je veux dire, des choses vraiment hyper précises, hyper techniques, ça s'apprend au fur et à mesure ou vous l'aviez en fait
Non, mais moi, je n'ai pas besoin de savoir comment on fait pour éclairer un fond blanc. Ce qu'il faut, c'est que je sois capable de prendre les bonnes décisions d'investissement quand il faut renouveler le parc de matériel et je me repose sur l'expertise des sachants. Quoi,
donc être bien entouré, comme d'habitude.
Voilà, il faut être bien entouré. Il ne faut pas être omnubilé par la technique. Il faut être capable d'avoir de la vision, de développer une stratégie et puis de développer la créativité et l'innovation au sein de ces équipes. Mais non, je ne suis pas un technicien. On m'a fait sentir à un moment que ça poserait un problème, le fait que je ne sois pas photographe pour reprendre la direction de l'entreprise. J'espère que l'histoire...
Fils de photographe, petit-fils de photographe. Mais pas photographe moi-même.
Non, pas photographe. Enfin, je fais de très belles photos de mes enfants, ceci dit.
Bah, c'est déjà ça, c'est quand même le principal. Alors moi, je vais vous poser la question du morceau qui vous touche le plus, parce que là, justement, vous dites que vous êtes dans un environnement artistique et que vous, enfin, vous avez une approche artistique aussi, mais personnelle, pas forcément dans l'environnement professionnel. Vous avez choisi un morceau de Marvin Gaye qui s'appelle What's Going On, que tout le monde connaît, mais qui est toujours un grand plaisir à écouter. Pourquoi Marvin Gaye ?
Bah Marvin, moi qui suis fan de R&B, c'est quand même le père, enfin je ne sais pas si c'est le père, mais pour moi c'est quand même une influence majeure du R&B et de la soul music. C'est une voix incroyable, un groove et un feeling qui me touche déjà, rien que ça.
Très belle voix dans les aigus aussi.
Exactement. Et puis il y a un message aussi. Alors moi je suis pas un grand fan des chansons à texte, mais What's Going On, je pense que c'est une question qu'on peut se poser aujourd'hui sur la direction qu'on prend, que prend le monde. C'est des questions qui me hantent un petit peu dans les périodes troubles qu'on traverse. Donc pour moi c'est une chanson qui est d'une grande actualité.
On l'écoute.
Mother, there's too many of you crying. Brother, 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 there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love and get here today. Oh, picket lines and picket signs. Punish me sister. With brutality. Sister. Talk to me sister. So you can see sister. Oh, what's going on?
Alors toujours en train de danser dans le studio Sébastien Rouchon de l'entreprise Rouchon Paris. On arrive sur la dernière partie de cette émission. Rouchon Paris, c'est quoi les projets de développement? Parce que moi, ça m'intéresse. C'est quoi votre style et c'est quoi vos projets de développement?
Alors, c'est vrai que moi, depuis que je suis arrivé à la tête de l'entreprise, il a fallu mener des grands projets, ne serait-ce que parce qu'on a pris la crise en 2008 de façon frontale et que ça a vraiment bouleversé les équilibres de l'entreprise et qu'il a fallu lancer des projets innovants. Et moi, j'ai voulu orienter l'entreprise vers la vidéo, vidéo que j'ai pu expérimenter quand j'étais à Dauphine. Dans ma première boîte, j'ai pu faire pas mal de vidéos. J'en profite pour dire que le morceau de Tassel et Naturel, Fillet of Soul, c'était un groupe de jazzmen, des copains qu'on a suivis en concert, qu'on a filmé avec beaucoup de plaisir, tellement ils sont talentueux. Et puis, dans Rouchon Paris, on est arrivé à un moment où l'iPad arrivait sur le marché, où les appareils photo commençaient à faire de la vidéo HD, où les caméras, nouvelles caméras, permettaient de faire des images très haute définition dont on pouvait extraire des photos. Donc, je voyais que la frontière entre la photo et la vidéo était en train de s'estomper. Et donc, j'ai voulu qu'on développe vraiment un savoir-faire dans la vidéo, ce qu'on a fait depuis, et notamment développer des projets qui tendent à faire évoluer la photographie en y rajoutant un peu de mouvement et un peu d'interactivité.
Ça veut dire qu'en gros, vous gardez l'approche traditionnelle, mais vous y apportez de l'innovation et de la modernité. C'est-à-dire que vous ne perdez pas l'état d'esprit de la maison, mais par contre, vous lui apportez effectivement toute une touche de modernité et d'avenir.
Mais c'est ça qui est compliqué, c'est-à-dire comment effectivement respecter l'esprit d'une photographie, mais de lui donner quelque chose de plus, avec un peu de mouvement, un peu d'interactivité. Et c'est quelque chose qu'on commence à nous appeler, entre nous, de la motion photographie, qui est une petite évolution de la photographie, puisque avec les tablettes et les écrans, on se sépare des contraintes du papier, donc on peut y faire évoluer.
On a vu un petit peu, enfin on le voit de temps en temps sur YouTube ou des choses comme ça, par exemple, en slow motion, des gens qui percent un ballon, par exemple, rempli d'eau, et on voit en fait toute une dynamique et une esthétique qui est assez proche de la photo, mais qui est autour du mouvement. C'est un peu cet esprit-là que vous voulez développer ?
Alors, c'est un peu cet esprit-là. On peut aussi citer le cinémagraphe qu'on voit avec beaucoup de gifs animés, notamment. Nous, ce qu'on essaie de rajouter aussi, c'est de l'interactivité. Et on a créé pour ça un magazine interactif qui s'appelle Hardy, qui est disponible gratuitement sur l'App Store, dans lequel on a voulu créer effectivement un laboratoire pour expérimenter une nouvelle forme de création qui mélange la photographie et la vidéo. L'idée, c'est que puisque la vidéo, ce n'est jamais que 25 photos par seconde, on essaye de créer des photographies interactives qui puissent durer 3, 4, 8, 10 secondes. Et on se rend compte qu'il y a un potentiel énorme de créativité dans ce domaine-là.
Bah écoutez, moi, ça me donne envie, en tout cas, de continuer d'aller me promener et de voir un petit peu ce renouveau et de la vidéo et de la photo, puisque c'est un peu le renouveau des deux en même temps, dans la capacité de le mixer. On va de toute manière se quitter, puisque toutes les bonnes choses ont une fin. Et que moi, je vais vous poser la question du morceau que vous voulez nous faire découvrir et faire découvrir aux auditeurs aujourd'hui. Donc, vous aviez choisi un morceau de...
De Julia Sarr et Patrice Larose, qui s'appelle « Nimala Jore ». Et c'est un morceau qui me fait penser à ma femme, que j'embrasse. C'est un morceau qu'on a écouté quand on est parti voyager au Sénégal. Et c'est un morceau qui me touche beaucoup.
En tout cas, Sébastien, merci beaucoup pour votre franchise, votre honnêteté, votre volonté de partager toutes vos expériences. Et puis, très très belle chance dans toutes vos entreprises et belle chance à Rouchon Paris.
Merci beaucoup, Stéphane.
À bientôt.
À bientôt. Thank you.
Do what you need.